du programme serait terminée. Donc on aurait un temps d'exécution du programme qui serait grosso modo proportionnel au nombre de lignes. Alors bien entendu, ça serait pas une situation satisfaisante, on pourrait pas écrire beaucoup de programmes dans un tel langage, et donc on a vu qu'il y avait, outre la séquence, d'autres constructions qui permettaient de choisir l'ordre dans lequel les lignes étaient exécutées, le test, la boucle, l'appel de fonction et la récursivité. Et l'ensemble de tout ça fait qu'on peut toujours considérer un programme de deux points de vue, d'un point de vue statique, c'est-à-dire depuis la première ligne jusqu'à la dernière ligne du programme dans l'ordre dans lequel elles sont écrites, et puis du point de vue dynamique, qui est l'ordre sur les lignes, qui n'est pas l'ordre textuel, mais qui est l'ordre d'exécution. Donc on va maintenant se tourner vers un autre sujet, qui est la manière dont les données sont traitées par un programme. Donc pour résumer les trois amphis, on a vu les constructions suivantes. Dans le premier amphi, la déclaration, l'affectation, la séquence, le test et la boucle. Et puis dans le deuxième et le troisième amphi, les notions de fonction et de récursivité. Et vous voyez qu'en bleu ici, les violets faisant partie du bleu, on a les cinq constructions qui forment le noyau impératif du langage qu'on considère, ici Java, mais on a vu que c'était la même chose pour Camel et pour C. Et en rouge, le violet faisant également partie du rouge, on a la déclaration, le test, la fonction et la récursivité, qui forment un autre fragment du langage, le noyau fonctionnel. Et ce qu'on a vu, c'est que ces deux fragments sont équivalents, et ils sont également équivalents au langage complet, c'est-à-dire tout ce qu'on peut programmer dans le langage complet, on peut le programmer dans le noyau impératif, ou dans le noyau fonctionnel, ou en mélangeant des traits impératif et fonctionnel. Et ça, c'est une chose extrêmement surprenante. On pourrait penser qu'il y a des langages de programmation plus ou moins puissants qui permettent de programmer plus ou moins de choses et qu'on a besoin, pour avoir un langage universel, un langage maximal pour cette notion de puissance, d'avoir des centaines de constructions. Et en fait, on s'aperçoit que dès qu'on a 3 ou 4 constructions, eh bien, en général, on a un langage complet. Il y a la notion de calcul, de ce point de vue-là, est une notion assez pauvre. On arrive à avoir un langage complet avec 3-4 constructions, la séquence, l'affectation, la boucle, ça suffit, avec le test, la fonction, l'appel de fonction, la récursivité et le test suffisent. Donc il est très difficile de concevoir un langage qui ne soit pas complet. Alors c'est le cas par exemple du langage où vous remplacez la boucle while par la boucle for. Dans ce cas-là, vous pouvez montrer qu'il y a des fonctions qu'on ne peut pas programmer dans ce langage, mais c'est plutôt des exceptions. La complétude est obtenue relativement facilement. On a vu que la signification des programmes se définissait par une fonction sigma, et essentiellement cette fonction transforme un état en un autre état. En fait, exactement un état en une mémoire, et cette transformation dépend du programme. Mais disons un petit peu le point faible de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était les structures de données. On a vu qu'une variable qu'on pouvait déclarer et affecter pouvait contenir un entier, un flottant, un booléen ou un caractère. Donc il n'y a que ces 4 possibilités. Alors tout ça, ça fait 8 types parce que en fonction de la taille des entiers et des flottants, il y a différents types, mais essentiellement, une variable contient simplement un nombre, un booléen ou un caractère. Alors bien entendu, c'est pas suffisant. On peut pas représenter dans une variable un objet comme cette chaîne de caractères, qui est composé non pas d'un caractère, mais de plusieurs caractères. De la même manière, on ne peut pas représenter un triplet comme celui-ci, 48,715, 2,208, 156. Est-ce que vous savez ce qu'est ce triplet? C'est de Paris, presque. Presque. En fait, c'est les coordonnées de mon bureau. Donc si vous cherchez mon bureau, c'est un point qui est à l'intérieur de l'école, mais c'est plus précisément mon bureau. Vous pouvez y venir si vous avez un GPS. De la même manière, on ne peut pas représenter dans une variable une donnée comme celle-ci, un polynôme ou une fonction 3x2 plus 4. Eh bien, ça ne rentre pas, c'est trop gros pour rentrer dans une boîte qui peut contenir juste un entier, un flottant, un booléen ou un caractère. Et donc ça amène à vouloir représenter, vouloir mettre dans des boîtes des données qui sont formées de plusieurs caractères, de plusieurs entiers, de plusieurs flottants, de plusieurs booléens, etc. Donc ici, le mot-clé, c'est plusieurs. Et il y a de nombreuses constructions dans le langage de programmation qui permettent de faire ça. Et ici, les langages de programmation se distinguent un tout petit peu du langage mathématique. En langage mathématique, vous avez essentiellement la notion de couple, la notion de n-uplay, la notion de suite finie, mais c'est à peu près la même chose qu'un n-uplay. Et donc, vous avez une offre de structure qui est relativement pauvre, enfin bon, qui permet de faire pas mal de trucs quand même. Et en revanche, en informatique, on a une très grande variété d'objets qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, on va se consacrer au plus simple, qui est les enregistrements. On va dire un mot des tableaux à la fin des à la fin de l'amphi, mais par exemple les modules qui sont des constructions qui sont très présentes dans les langages de programmation, pas en Java, mais il y en a en Camel par exemple, sont aussi des objets qui permettent des constructions qui permettent d'agréger plusieurs objets en un seul objet. Et essentiellement la complexité des programmes, je vous ai dit, il y a des programmes qui font plusieurs centaines de milliers de lignes, plusieurs millions de lignes. On a vu que la notion de fonction permettait déjà de structurer les programmes, mais la structuration des programmes va beaucoup plus loin avec les modules, les objets, dont on reparlera un peu plus tard. Quand on a comme ça une construction qui permet d'agréger plusieurs objets en un seul objet, chacun des objets agrégés s'appelle un champ, et donc on peut parler du champ d'un enregistrement, d'un champ d'un tableau, d'un champ d'un module. C'est un terme relativement universel. Donc, en mathématiques, les n-uplets peuvent être définis comme des fonctions dont le domaine, c'est 0, n-1. Donc, par exemple, un triplet, c'est une fonction dont le domaine, c'est 0, 1, 2. Et le premier élément du triplet, c'est l'image de 0. Le deuxième élément du triplet, c'est l'image de 1. Et le troisième élément du triplet, c'est l'image de 2. Et donc, essentiellement, ce sont des fonctions de domaine fini, mais dont, plus précisément, le domaine est un segment initial des entiers, c'est-à-dire un ensemble d'entiers, 0, 1, 2, 3, 4, etc., mais qui s'arrête à un moment. En informatique, c'est une mauvaise idée d'utiliser des n-uplets de cette manière. On va voir qu'on peut le faire, ça s'appelle des tableaux, mais en général, ce qu'on veut, c'est avoir une fonction de domaine fini, mais dont le domaine n'est pas un sous-ensemble des entiers. Typiquement, si je veux représenter le point dont je parlais tout à l'heure, eh bien, j'ai pas envie de dire que l'image de 0, c'est 48,715, l'image de 1, c'est 2,208, l'image de 2, c'est 156. Je veux choisir un ensemble qui contient trois éléments, mais je veux appeler mes éléments latitude, longitude, altitude, et nommer chacun des champs. Et donc, cet objet, c'est une fonction d'un ensemble fini, latitude, longitude, altitude, vers des flottants. Ça, c'est un grand progrès dans les langages informatiques. Dans les langages anciens, dans lesquels on avait juste des n-uplets à champs numérotés, c'est-à-dire où on était obligé de se souvenir que la latitude était mise dans la boîte avec le numéro 0, la longitude avec le numéro 1 et l'altitude avec le numéro 2, il y avait énormément d'erreurs qui venaient du fait de cette convention, puisque typiquement, vous commencez toujours un programme en écrivant latitude-longitude. Par exemple, si vous avez vendu votre programme à un fabricant de bateaux, et puis un jour, vous voulez vendre le même programme à un fabricant d'avions, mais là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une troisième coordonnée qui est nécessaire pour les avions, et donc on va modifier le programme. Et quand on modifie le programme, c'est comme ça qu'on retrouve des avions à une altitude de 48,715, parce qu'au moment où on a modifié le programme, on n'a pas tout modifié, et donc il est resté des choses qui sont incohérentes avec le reste. En revanche, quand on nomme les champs, comme ici, il y a de nombreuses erreurs dans les programmes peuvent être évitées. Donc, comment est-ce qu'on définit un type en Java dont le contenu, dont les éléments sont des triplets, comme ici? Eh bien, ça se fait par un mot clé qui est le mot classe. Et vous vous souvenez qu'on a déjà vu le mot clé classe. À quelle occasion? Donc on a dit quand on a un programme qui est composé de fonctions et d'un programme principal, qui est elle-même une fonction, et éventuellement aussi de variables globales, on agrège tout ça en un programme et on déclare le nom du programme avec le mot-clé classe. Donc il s'avère ici qu'on utilise exactement le même mot-clé. Et c'est une pure coïncidence. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi c'est le même mot-clé qu'on utilise ici et là. C'est une pure coïncidence, il y a des langages où ce sont des mots-clés différents. Donc c'est un peu un mystère que les concepteurs de Java aient choisi d'utiliser deux fois le même mot-clé pour des choses différentes. Et c'est un mystère qu'on ne sera pas en mesure d'éclaircir avant l'amphi 8, À l'amphibite, on verra qu'il y a une bonne raison pour ça, mais quand on parlera des objets. Mais pour le moment, on va considérer que c'est juste une coïncidence. Il faut donner un nom au type. Donc ici, assez naturellement, j'ai appelé mon type le type des points. Il faut indiquer le domaine de la fonction, c'est-à-dire l'ensemble des étiquettes. Et ici, j'ai indiqué qu'il y a trois étiquettes qui s'appellent latitude, longitude et altitude. Pour chaque étiquette, il faut indiquer, pour chaque champ, il faut indiquer l'élément, le type de l'élément qui est agrégé sous ce nom. Et donc ici, à chaque fois, c'est des flottants en double précision. Donc je vous rappelle que le type en Java s'appelle double. Et ensuite, il faut indiquer pour chaque champ s'il est mutable ou final. Et ici, j'ai indiqué que tous les champs sont finaux. Et vous comprenez bien que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir modifier ces champs. Mais on va voir exactement ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose à faire pour pouvoir parler d'enregistrement dans un programme. Il faut définir un type nouveau, un type qui contient des triplets, des enregistrements. Qu'est-ce qui se passe quand je déclare une variable x qui contient de type point? Alors, comme dans toute variable, si je déclare une variable mutable, eh bien, je dois mettre une référence nouvelle qui va contenir un nom. Ce nom, ça va être x. Et dedans, il va y avoir quelque chose. Et on pourrait se dire, il faut que, pour le moment, j'ai une valeur par défaut, puisque j'ai pas indiqué de valeur dans la déclaration. Et donc, cette valeur, c'est une nouvelle valeur qui s'appelle nulle et que je vais juste représenter par un carton blanc sur lequel il n'y a rien. Bien, ça c'est ce qui se passe quand je déclare une variable x. Dans l'environnement, j'ai une nouvelle variable qui est liée à une référence et cette référence dans la mémoire est liée à la valeur nulle. C'est la situation que vous avez ici. La référence, c'est la boîte elle-même. L'association entre le nom et la référence, c'est l'environnement. Et l'association entre la référence et la valeur, c'est la mémoire. Bien, maintenant, on se dit, je veux mettre dans cette case un triplet. Mais vous voyez que la case est beaucoup trop petite pour permettre de mettre un triplet dedans. Donc voici mon triplet. 48, 715, 2, 208, 156. Et vous voyez, bien que j'ai pris une grosse boîte, que j'arrive pas à les faire rentrer tous les trois. Voilà, donc c'est pas possible. Donc il y a une nouvelle opération qui n'est ni la déclaration du type des points, ni l'affectation d'une variable, qui est la création d'une boîte suffisamment grande pour pouvoir contenir trois nombres. Et ça, ça se fait par un nouveau mot-clé qui s'appelle new. Et donc là, il y a une nouvelle expression qui est new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et qu'est-ce qui se passe quand j'exécute cette construction new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante? Eh bien, il se passe ce que vous attendez depuis maintenant 15 jours, voire trois semaines, il se passe qu'on va créer une boîte qui va pouvoir contenir trois noms, mais cette boîte ne va pas être une boîte bleue, ça va être une boîte rouge. Voilà, une boîte rouge. Et pourquoi est-ce qu'elle est rouge? Elle est rouge parce qu'elle a été créée par le mot-clé new. Donc je me retrouve maintenant dans cette situation où j'ai toujours x qui est lié à cette référence r, j'ai toujours r qui est lié à la valeur nulle, ici rien n'a changé, mais en revanche j'ai cette référence r' qui est la boîte rouge et qui pour le moment contient des valeurs par défaut, et vous vous doutez que ces valeurs par défaut sont 0, 0 et 0. Ah, il me manque un zéro. Ah oui, bien sûr. Hop. Merci. Bien, jusqu'ici tout va bien, mais vous voyez que je n'ai aucun moyen dans mon programme de parler de cette boîte rouge qui n'est associée dans l'environnement à aucun nom et qui n'est en fait associée à rien. Elle n'a ni un nom, ni rien. Donc je vais utiliser une nouvelle construction, mais qui est une construction qu'on connaît, qui est l'affectation. Oui, pardon, voilà, on était là. Et je vais utiliser une nouvelle construction qui est l'affectation. Et ici, au lieu d'écrire new point, qui est une expression, je vais utiliser cette expression dans une affectation et je vais écrire x égale new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, exactement comme tout à l'heure, j'ai toujours ma boîte x qui contient, qui est associée dans l'environnement à une référence R, c'est cette boîte. Et puis, j'ai à côté ma référence R' qui est la boîte rouge. Mais la valeur de cette expression new point, c'est R'. C'est cette référence-là, c'est cette boîte. Et quand j'écris x égale new point, il faut que je mette maintenant dans x la valeur de cette expression, c'est-à-dire cette boîte-là. Mais alors, vous voyez que déjà tout à l'heure, j'arrivais pas à faire rentrer les trois valeurs là-dedans, et a fortiori, je vais pas arriver à faire rentrer la boîte rouge dans la boîte bleue. Et donc ça, c'est un point qu'on avait déjà rencontré de manière très marginale en parlant de C, et qu'on va voir de maintenant de manière systématique en Java. Au lieu de mettre la boîte rouge dans la boîte bleue, eh bien, je vais juste mettre dans la boîte bleue une indication qu'il faut aller vers la boîte rouge. Et donc, je me retrouve dans cette situation. Dans la mémoire, le contenu de la boîte R est la boîte R', et le contenu de la boîte R' est le triplé 0, 0, 0. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir écrit x égale new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, j'avais écrit final x égale new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est-à-dire si au lieu d'avoir déclaré ma variable x comme étant mutable, j'avais déclaré une variable x finale. Eh bien, dans ce cas-là, je n'aurais pas eu de référence R et j'aurais pointé directement x, le nom x, je l'aurais associé directement dans l'environnement à la valeur de cette expression new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et cette valeur, c'est quoi? C'est la boîte, c'est R'. Et donc, j'aurais pointé directement le nom sur la valeur, c'est-à-dire j'aurais associé dans l'environnement x à une référence. Et donc, vous voyez qu'il y a un truc un peu bizarre ici, c'est que la variable x, bien qu'elle soit finale, est associée dans l'environnement à une référence. Mais ce n'est pas une référence qui est une boîte bleue, qui a été créée par la déclaration de x, c'est une référence qui est une boîte rouge, qui a été créée par le new qui se trouve ici. D'accord? Donc c'est des situations différentes. On a une étiquette qui est sur une boîte rouge. Bien, donc, on a vu comment déclarer un type, on a vu comment allouer une cellule, et une cellule, c'est le nom qu'on donne à une référence créée par le mot-clé new, c'est-à-dire à une boîte rouge. Et maintenant, troisième opération, comment accéder au champ qui se trouve ici? Comment savoir quelle est la latitude de ce point? Eh bien, ici, il y a une nouvelle construction qui est une expression du langage x.latitude. Alors, dans le cas où ma variable x était mutable, j'étais dans cette situation, j'avais ici x qui pointait sur R, R allait sur R', et R' contenait ce triplet. Donc c'est exactement ce que vous avez ici sur la table, c'est exactement la représentation de cet état-là. Bien, essentiellement, si je fais x pour latitude, ce dont je veux parler, c'est ce nombre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la valeur de x, ici c'est quoi la valeur de x? Alors vous pouvez répondre c'est la boîte bleue, vous pouvez répondre c'est la boîte rouge, ou vous pouvez répondre c'est 0. Qui pense que c'est 0? Alors, c'est la boîte bleue ou c'est la boîte rouge? C'est la boîte rouge. D'accord? Quand vous avez une variable mutable, pour connaître sa valeur, vous regardez dans l'environnement à quelle référence cette variable est associée, et puis dans la mémoire à quelle valeur cette référence est associée. Ici, c'est R', R', c'est la boîte rouge. OK? Donc, on est dans une situation où la valeur de X, c'est une référence R', qui est associée dans la mémoire à un triplet. Eh bien, par convention, par définition, la valeur de l'expression x.latitude, c'est la valeur du champ latitude du triplet auquel, là, dans la mémoire, la référence valeur de x est associée. D'accord? La même phrase avec les mots dans un autre ordre. Si x est associé, si la valeur de x est une référence R', alors la valeur de x.latitude, c'est la valeur du champ latitude du triplet associé à R', c'est-à-dire associé dans la mémoire à la valeur. La valeur n'est jamais le triplet lui-même. La valeur est toujours une référence associée dans la mémoire à un triplet, et x.latitude va directement prendre le champ latitude de ce triplet-là. Bien, tout ça c'est bien, mais pour le moment, on a juste pu créer des boîtes rouges qui contenaient des zéros et accéder à ces valeurs. Et bien entendu, on va vouloir les modifier. Et donc, c'est la quatrième et dernière construction qui nous permettra de comprendre l'ensemble des constructions relatives aux enregistrements, qui est l'affectation d'un champ. Donc, rappelez-vous ça, les quatre constructions qui permettent de comprendre ce qu'est un enregistrement, c'est la déclaration d'un type, enregistrement, l'allocation d'une cellule, c'est-à-dire la création d'une boîte suffisamment grande pour contenir un enregistrement, l'accès à un champ et la modification d'un champ. À chaque fois que vous aurez à apprendre un nouveau langage, vous pourrez poser la question, est-ce qu'il y a des enregistrements dans ce langage? Si vous avez un langage sans enregistrement, c'est bon, vous avez terminé, vous avez compris tout ce qui concerne les enregistrements dans ce langage. Si vous avez un langage qui contient des enregistrements, il faut poser ensuite quatre questions. Comment est-ce qu'on déclare un type? Comment est-ce qu'on alloue une cellule? Comment est-ce qu'on accède à un champ? Et comment est-ce qu'on modifie ce champ? Ici, pour pouvoir modifier les champs de cet enregistrement-là, il faut que ces champs soient mutables. Donc là, je les avais déclarés finaux, et du coup, ça ne va pas marcher. Donc il aurait fallu que j'utilise cette déclaration, dans laquelle je n'ai pas mis le mot-clé final. Et vous vous souvenez qu'en Java, par défaut, tout est mutable, les champs comme les variables, et c'est seulement quand on veut que la variable ou le champ soit non mutable qu'on met le mot-clé final. Donc ici, pas de mot-clé, ça veut dire mutable. Et vous pouvez vous dire, si c'est mutable, ça veut dire qu'il va encore y avoir une référence vers laquelle le champ pointe. Et ça aurait été tout à fait logique, mais c'est pas comme ça. C'est pas le choix qui a été fait en Java. Que le champ soit mutable ou final, ça ne change rien en termes de construction de boîte. En gros, on a déjà été contraint d'introduire une référence pour pouvoir mettre trois objets dans la même boîte. Eh bien, on va utiliser cette même référence pour rendre les champs mutables. C'est pas la peine d'introduire une deuxième référence. On va utiliser la même référence pour faire les deux choses à la fois. Et ça, c'est un choix de Java. Il y a d'autres langages qui pourraient faire autrement. Donc, bien que mes champs soient mutables, j'ai toujours exactement le même état que tout à l'heure. Et j'ai une dernière construction qui est celle-ci, qui ressemble à l'affectation, qui s'appelle l'affectation d'un champ, qui utilise ici le symbole égal, mais ce symbole égal va avec le symbole point qui se trouve là, et ici, ce que vous dites, c'est je veux affecter la valeur 48,715 au champ latitude de quoi? De l'enregistrement associé dans la mémoire à la valeur de x. La valeur de x est toujours une référence, ce n'est jamais l'enregistrement lui-même, et donc ce dont on veut modifier la valeur, c'est l'enregistrement associé dans la mémoire à x, et voilà, j'ai exécuté la première affectation d'un champ. J'exécute la deuxième, et je peux également exécuter la troisième. Donc voilà, maintenant vous connaissez tous les éléments de Java qui permettent construire et d'utiliser des enregistrements. Alors tous, presque, il y en a un dernier qui s'appelle les constructeurs et qui est juste une abréviation pour créer une boîte comme celle-ci en donnant des valeurs initiales. On pourrait se dire qu'à chaque fois qu'on crée une boîte, il y a des valeurs par défaut, les zéros qu'il y avait tout à l'heure, et qu'ensuite, dans un deuxième temps, on va mettre dans chacun des compartiments une valeur en utilisant une affectation. On a une manière plus courte de faire ça, qui est d'écrire directement ce qui est ici, x égale new point de 48715, 2,208, 156. Vous vous souvenez qu'avant, on écrivait new point de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Ici, entre les deux parenthèses, on peut mettre trois arguments. Et pour faire ça, il faut déclarer, en même temps qu'on déclare le type point, il faut déclarer un constructeur. Et le constructeur ressemble essentiellement à une fonction. Sauf que, il doit avoir le même nom que la classe, avoir le même nom que le type, il doit s'appeler point. Il prend des arguments, mais ne retourne pas de valeur, donc on n'indique pas void ou quoi que ce soit, et on se demande pas s'il est statique ou... Enfin, on ne met pas le mot-clé statique, je veux dire. Qu'est-ce qui se trouve dans le corps de cette fonction? Eh bien, il se trouve trois affectations d'un certain objet qu'on appelle this, et cet objet this, c'est l'objet qu'on est en train de construire. C'est son nom, il s'appelle this, et c'est un mot-clé du langage. Et donc on écrit this.latitude égale A, this.longitude égale B, this.altitude égale C. Quand on va faire new point de ces trois valeurs, juste après avoir créé la boîte, on va exécuter ces trois instructions, ce qui va directement mettre trois valeurs ici. Donc c'est une construction superflue, on peut la reprogrammer avec les quatre constructions qu'on a vues avant. Bien, parlons très brièvement de la fonction sigma. Ce qui est important de comprendre ici, c'est vraiment ce qui se passe dans les états. Et la fonction sigma qui modifie les états, qui modifie la mémoire plus précisément, eh bien une fois qu'on a compris avec les boîtes ce qui se passe, c'est pas difficile de retranscrire ça en termes de fonction. Et donc je vais vous le laisser en exercice. Mais il y a quatre opérations dont on veut définir la sémantique. Qu'est-ce que c'est que définir un enregistrement? Qu'est-ce que c'est qu'allouer un enregistrement? Qu'est-ce que c'est qu'accéder à un champ? Qu'est-ce que c'est que modifier un champ? Pour pouvoir faire ça, il faut que, en plus du programme, en plus de l'environnement, en plus de la mémoire, en plus de l'environnement global, c'était quoi l'environnement global? C'était ce qui contenait les définitions de fonctions et les définitions de variables globales. D'accord, on a vu ça au deuxième amphi. Eh bien, il faut rajouter un cinquième argument, qui est la liste des types qu'on a déclarés, qu'on a définis. Donc essentiellement, quand on définit un enregistrement, ça consiste juste à ajouter quelque chose là-dedans. Et puis quand on alloue un enregistrement, on va modifier la mémoire en disant on a rajouté une boîte. Quand on accède à un champ, eh bien là, c'est la fonction θ qui explique comment on calcule la valeur de l'expression x.latitude, par exemple, et comment on modifie un champ. Et bien ici, il faut expliquer comment on modifie la mémoire. Et donc, chaque chose, et bien c'est juste, ça consiste juste à répéter ce qu'on a dit de manière informelle, mais de manière plus formelle, plus mathématique. Bien, on va passer à une partie du cours qui n'introduit pas une nouvelle construction. On va pas introduire un nouveau mot-clé, on va pas découvrir davantage la syntaxe de Java, mais on va voir que ce système d'enregistrement permet de faire un certain nombre de choses de différentes manières et qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Donc on va pas introduire de nouveaux concepts, on va pas introduire de nouvelles constructions, on va voir comment les utiliser. Alors essentiellement, on va commencer par des exemples. Ici, j'ai un environnement qui contient deux variables qui s'appellent x et y et qui sont associées à deux références R1 et R2 qui sont toutes les deux des boîtes bleues. Donc je vais mettre ça là. Vous avez ici X qui est associé à R1. Donc R1, c'est cette boîte bleue. Voilà. Et vous avez ensuite Y qui est associé à R2. Et R2, c'est cette boîte bleue. Dans la mémoire, R1 est associé à R3. C'est quoi R3 maintenant? Alors c'est la boîte rouge qui se trouve là. Et R3 contient trois valeurs qui sont 48,715, 2,208 et 156. Donc ça a l'air à peu près d'être ça. R2 est associé à une autre référence, R4, que voici. Et donc puisque c'est associé, puisque R2 est associé à ça, je mets ce pointeur. Et dans R4, eh bien, il y a exactement les mêmes valeurs qui se trouvent ici. Donc voici un état qui contient cet environnement et cette mémoire. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous avez à comprendre une expression comme celle-ci, la première chose, c'est de la dessiner. Alors si vous avez des boîtes, vous pouvez utiliser des boîtes. Si vous n'avez pas de boîte, il faut dessiner les boîtes. Et on exécute x égale y. Et donc là, encore une fois, on n'est pas en train de découvrir l'affectation. L'affectation, on l'a vu au premier amphi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on exécute, pardon, y égale x? Et bien, on va calculer la valeur de x. Et la valeur de x, c'est quoi? Alors, qui pense que c'est R1? Oui, donc c'est R3, bravo. Et je vais mettre dans Y la valeur R3. Et donc ça veut dire que je vais ici mettre dans Y un pointeur vers R3. Et donc je me trouve ici dans une situation où l'environnement est différent. R3 est maintenant associé à deux références. J'ai R, le contenu de R1, c'est R3, et le contenu de R2, c'est R3 également. D'accord? Donc ça, c'était le premier exercice. Donc vous avez vu qu'il était relativement facile. J'ai juste dû, pour l'affectation Y égale X, j'ai juste dû enlever ce pointeur et le pointer là, et le piquer là. D'accord? Donc je vais revenir dans l'état initial. Ah oui, non, c'est des zéros, là. Bien sûr, vous ne comprenez rien. Vous ne pouvez pas comprendre si je mets les mauvais, si je mets les mauvaises valeurs. Bien, donc je recommence. Quand je fais y égale x, je mets dans y. À vrai dire, j'ai pas vraiment besoin que ce soit le même. Je prends un nouveau pointeur qui va vers R3, et je le mets dans Y. Et du coup, l'ancienne valeur de Y disparaît. Alors une question que vous pouvez poser, c'est le bon moment de la poser, qu'est-ce qui arrive à R4? Ça, on en discutera bientôt. On en discutera quand on parlera du glaneur de cellules. Autre exercice. Je repars de la même situation. Qui se trouve ici, et j'exécute maintenant ces trois affectations, y point latitude égale x point latitude, y point longitude égale x point longitude, et y point altitude égale x point altitude. Quelle est la valeur de x point latitude? 48,715. Et donc, cette affectation, ça va faire quoi? Quelle est la valeur de Y? Quelle est la valeur de Y? R4. Et donc, je dois remplacer le champ latitude de l'enregistrement associé à R4 dans la mémoire par 48,715. Ça fait ça. Et bien sûr, quand je vais faire pareil avec le champ longitude, ça va faire ça. Et pareil avec le champ altitude, ça va faire ça. Donc vous voyez que j'arrive à des situations complètement différentes quand, dans un cas, je fais y égale x, ou quand je fais séparément l'affectation des trois champs de y. Maintenant, si je suis dans le premier cas, non, si je suis dans le deuxième cas, dans ce cas-là, dans le cas que vous voyez, j'ai R1 qui contient R3, R2 qui contient R4, et R3 et R4 qui contiennent des enregistrements identiques, et je fais x point latitude égale 23,45. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller changer le champ latitude de R2. Et j'obtiens cette situation. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'affiche le champ latitude de Y? J'affiche combien? 48,715. J'avais au départ des valeurs identiques dans ces deux boîtes. J'ai changé une boîte, l'autre n'a aucune raison de changer. Elle ne savait même pas qu'elles étaient identiques. Et donc, ici, cette valeur n'a pas changé. En revanche, dans la situation où X et Y partagent la même cellule, si j'exécute X point latitude égale 23,45 et puis que j'affiche la valeur du champ latitude de Y, eh bien, la valeur du champ latitude de Y, c'est 23,45. Alors ce point, c'est exactement le point qui se trouve juste en dessous de mon bureau sur le tropique. D'accord? C'est les trois coordonnées de ce point. Bon, vous avez vu ici qu'il n'y a rien de mystérieux au fait qu'en modifiant la valeur de X et en affichant la valeur de Y, j'obtiens la valeur que j'avais modifiée dans X. C'est juste une conséquence de la définition de l'affectation d'un champ et de l'affectation d'une variable. Ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité du langage, c'est juste la conséquence des définitions qu'on a données tout à l'heure. Alors, une question qui se pose, c'est quand est-ce que deux variables, ou plus généralement deux expressions, T et U, sont égales? Donc, quand j'écris if T égale U, quand est-ce que cette valeur vaut vraie? Est-ce qu'elle vaut vrai dans cette situation? Alors, qui pense que oui? Qui pense que non? Bravo. Pourquoi? Ben parce que la valeur de T, la valeur de X ici, c'est R2, R3. La valeur de Y, c'est R4. Et R3 et R4, ben c'est des objets différents. Donc, la réponse est non. Donc, cette expression vaut vrai, vaut true, quand les deux expressions sont exactement la même référence. Et vous comprenez pourquoi les ordinateurs ne marchent jamais, parce qu'il y a toujours un petit peu de vent qui fait voler les valeurs. Bien. En revanche, est-ce que j'ai besoin dans le langage d'une construction qui me permet de dire que X et Y sont égales dans ce sens étendu, qui est que chacun des champs est égal à l'autre. Eh bien, j'ai pas besoin qu'il y ait dans le langage une construction spéciale pour ça, puisque je peux moi-même écrire cette fonction. Il me suffit d'écrire cette fonction que je peux appeler equal, qui prend deux arguments x et y et qui vérifie que le champ latitude de l'un est égal au champ latitude de l'autre, pareil pour le champ longitude et pareil pour le champ altitude. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité structurelle de deux enregistrements. Deux enregistrements sont structurellement égaux, deux enregistrements du même type sont structurellement égaux si dans chacun des champs, la valeur d'un enregistrement est égale à la valeur de l'autre enregistrement. Donc typiquement ici, X et Y sont structurellement égaux. En revanche, on dit qu'ils sont physiquement égaux si les deux expressions font référence à la même référence. La valeur des deux expressions est la même référence. Alors, vous voyez que l'égalité physique implique l'égalité structurelle. Si deux expressions ont comme valeur la même référence, bien, a fortiori, chacun des champs de cette référence sera égal à lui-même. En revanche, la réciproque est fausse. Il peut arriver que deux expressions soient structurellement égales en étant physiquement différentes. Est-ce que ces deux triplets sont égaux? Ben non, ils sont pas structurellement égaux, puisqu'ils ont un champ longitude différent. Et a fortiori, quelle que soit la manière dont je les code avec des boîtes, ils vont pas être physiquement égaux, puisque s'ils étaient physiquement égaux, ils seraient structurellement égaux, et c'est pas le cas. Alors pourtant, vous devez savoir que ce point du globe, qui porte un nom, c'est le pôle Nord, et celui-là porte un nom aussi, c'est le pôle Nord. Donc, en tant que point du globe, ces deux triplets font référence au même point. Et de la même manière, ce point, c'est le même. C'est l'intersection de la ligne de changement de date avec l'équateur. D'ailleurs, un truc au milieu du Pacifique, personne n'y est jamais allé, mais en tout cas, on peut en parler. Et on peut même en parler de plusieurs manières. Alors, vous voyez qu'en plus de l'égalité structurelle et de l'égalité physique, on peut avoir envie de définir une troisième égalité qui, dans ce cas particulier, est le fait que deux points repèrent le même point du globe, que deux triplets repèrent le même point du globe. Et donc ça, c'est l'idée qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'à chaque fois que vous définissez un type, comme ici le type des points, vous devez définir tout un tas d'opérations sur ce type. Vous voulez savoir ce qui se passe si vous faites une rotation, vous voulez savoir ce qui se passe si vous projetez sur le tropique. Donc vous pouvez définir tout un tas d'opérations, mais une de ces opérations, c'est de définir la relation d'égalité que vous voulez sur les points, sur les éléments du type en général. Il est extrêmement rare que la notion d'égalité dont vous avez besoin, ce soit l'égalité structurelle ou que ce soit a fortiori l'égalité physique. Alors un exemple. Si vous prenez les couples formés d'un entier et d'un entier non nul, et que vous quotientez cet ensemble par une relation R qui vous dit que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, vous obtenez l'ensemble des rationnels. D'accord, on a dû vous apprendre ça un jour. Le premier élément du couple, ça s'appelle le numérateur. Le deuxième élément du couple, ça s'appelle le dénominateur. Il faut qu'il soit non nul. Et le rationnel un tiers est égal, c'est le même nombre que le rationnel 2 sixièmes. Et donc pour ça, comme c'est pas le même couple, un tiers et 2 sixièmes, vous devez quotienter votre ensemble par cette relation. Et donc comme ça, vous obtenez l'ensemble qui se trouve ici, qui est muni d'un certain nombre d'opérations. L'addition, un élément neutre pour l'addition, l'opposé, la multiplication, un élément neutre pour la multiplication, et ce i, j'ai oublié ce que c'est l'inverse. Vous voyez que quand vous définissez le corps des rationnels, eh bien vous ne donnez pas d'habitude une relation qui vous permet de comparer deux rationnels. Elle ne fait pas partie de la définition de la structure. Et l'égalité des rationnels, ben c'est juste l'égalité. Vous savez ce que c'est l'égalité de deux objets mathématiques? Ça fait partie de la définition des axiomes des mathématiques. Il y a une notion d'égalité. Et la notion d'égalité qu'on emploie est toujours celle-ci. Alors, en informatique, c'est extrêmement difficile d'utiliser ce genre de définition parce que l'ensemble un tiers, qui est l'ensemble de tous les couples, 2 sixièmes, 3 neuvièmes, etc., qui ont le produit des moyens avec le produit des extrêmes avec un tiers identique, eh bien, c'est un ensemble infini, et on n'a pas du tout envie, on ne sait pas, et même s'il était fini, on n'aurait pas du tout envie de garder toutes les représentations possibles sous forme d'une fraction. Donc, à l'inverse, on va définir un ensemble qui est simplement l'ensemble des fractions, non pas l'ensemble des rationnels, mais l'ensemble des fractions. Donc c'est juste un couple formé d'un numérateur et d'un dénominateur. Et dans la définition de la structure, on va inclure une opération particulière qui est la relation par laquelle avant on quotientait et qui est la relation qui nous dit quand deux fractions sont égales. Donc ça, c'est la différence que vous trouvez en algèbre entre une notion de groupe et une notion de groupoïde. Un groupoïde est n'importe quoi qui contient une relation telle que si vous quotientez l'ensemble par la relation, vous obtenez un groupe. D'accord? Donc c'est un ensemble muni d'une relation d'égalité, muni d'opérations plus zéro soustraction. Il y a que ça si vous avez un groupe. Il faut que ces opérations soient compatibles avec cette relation de manière à ce que vous puissiez quotienter, définir les opérations sur le quotient. Et dans ce cas-là, il faut que vous obteniez un groupe. Et vous voyez qu'un groupoïde peut avoir des éléments qui ont une représentation finie, mais que quand vous quotientez, et bien les éléments du groupe sont des ensembles infinis. Et donc, en informatique, mais également dans certaines situations en algèbre, vous ne voulez pas quotienter, vous voulez juste garder la représentation concrète. L'exemple typique de ça, c'est les réels. Quand vous calculez avec des nombres réels, exacts, pas des flottants, des nombres réels exacts, et bien en fait, vous ne voulez pas calculer avec des nombres réels, vous voulez calculer avec des suites de Cauchy. C'est déjà suffisamment compliqué d'avoir un type de données qui contient des suites de Cauchy pour que, en plus, vous vouliez quotienter cet ensemble par la relation d'égalité de suites de Cauchy. Un cas particulier de partage. Qui va nous permettre d'introduire une nouvelle notion qui est la notion de 1 uplet. Donc la notion de 1 uplet, c'est un enregistrement qui contient un seul champ, par exemple de type entier, et dans ce cas-là, on va appeler ce type integer. D'accord ? Ça rappelle entier, mais on le note avec une majuscule. En général, enfin en Java, je crois que c'est même plus ou moins obligatoire. Tous les types définis ont un nom qui commence avec une majuscule, et seulement les types primitifs, les types scalaires, ont un nom qui commence avec une minuscule. Et ici, on a donc ce type integer qui contient une seule valeur, qui est un entier. Alors, comme vous savez, les 1 uplets d'entiers, d'un point de vue mathématique, c'est pas très différent des entiers. Donc, on peut se dire, à quoi bon définir des 1 uplets? Mais, donc, un type 1 uplet, ça s'appelle un type enveloppé, en Java et dans d'autres langages de programmation. Et l'intérêt d'avoir des 1 uplets par rapport à avoir juste des entiers, c'est que ça permet le partage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux distinguer deux situations dans lesquelles j'ai ici un uplet qui contient 4. Et donc je peux distinguer cette situation où X et Y sont associés à deux références, R1 et R2, c'est les boîtes bleues, qui sont elles-mêmes associées à deux références, R3 et R4, ce sont les boîtes rouges, qui contiennent toutes les deux la valeur 4. Et donc je peux distinguer cet environnement de l'environnement dans lequel X et Y partagent l'une et l'autre, la boîte R3. Avant, X et Y étaient structurellement égales, mais physiquement distinctes. Et maintenant, dans cet environnement-là, X et Y sont des expressions qui sont physiquement égales. Donc attention, un uplet, ici, c'est différent. Le 4 n'est pas dans la boîte bleue, il y a la boîte rouge en plus. Et le fait qu'il y ait la boîte rouge en plus permet à deux variables, x et y, de partager une valeur. Vous vous souvenez qu'on avait déjà parlé des types enveloppés la dernière fois, puisque je vous avais dit qu'on ne pouvait pas encore parler de la manière dont on faisait de l'appel par référence en Java. On avait vu comment on faisait en Pascal, on avait vu comment on faisait en C, on avait vu comment on faisait en Camel, mais je vous avais dit en Java, il manque une construction qu'on n'a pas encore vue, et cette construction, c'est précisément les types enveloppés. Alors effectivement, vous ne pouvez pas, en Java, écrire une fonction swap, une fonction qui intervertit les valeurs de deux variables, quand ces variables sont de type int. Mais vous pouvez le faire quand vous avez deux variables qui sont de type integer. Donc regardez ce qui se passe quand j'ai ici deux boîtes qui s'appellent A et B. Donc ça c'est B. Et ça, c'est A. Donc j'ai deux boîtes A et B. Et en exécutant A égale new integer de 4, je crée la boîte rouge qui se trouve ici. C'est le new integer qui crée cette boîte. Et je mets un pointeur de A vers cette boîte. Et je crée, de la même manière, cette boîte rouge qui va contenir la valeur 7. Pourquoi est-ce qu'ici je peux écrire new integer et mettre juste une valeur derrière? Parce que j'ai défini un... On a vu ça tout à l'heure. En général, j'écrivais new integer parenthèse parenthèse et ça crée une boîte qui contenait une valeur par défaut. Et là, j'indique la valeur que je veux. Donc c'est parce que j'ai défini un constructeur. Bien, maintenant, dans cette situation, j'appelle la fonction swap sur A et B. Et la fonction swap est définie ici. Donc vous voyez que je vais, au moment de l'appel, créer deux boîtes X et Y, donc qui se trouvent ici. Voici X et voici Y. Et j'affecte à X la valeur qui se trouve ici, A. Et c'est quoi la valeur de A? Eh bien, c'est la boîte qui se trouve là. Ça veut dire que dans X, je vais mettre un pointeur vers cette boîte. Et de la même manière, dans Y, je vais mettre un pointeur sur cette boîte. Et le simple appel de valeur fait sur un type enregistrement, ici, un type enveloppé, un type enregistrement à un seul champ, mais c'est la même chose pour n'importe quel type enregistrement, crée un partage des boîtes rouges, crée un partage des cellules entre la variable du programme principal et la variable locale d'appel. Ensuite, quand j'intervertis le contenu des boîtes X et Y, et puis que je quitte la fonction, c'est-à-dire que je supprime les noms X et Y, eh bien vous voyez que le contenu des boîtes A et B a bien été interverti. Donc, ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on ne peut pas écrire une fonction swap qui aurait ici le type int. Donc ça, on peut le faire dans tous les langages de programmation, sauf en Java. On peut le faire en C, on peut le faire en Pascal, mais on ne peut pas le faire en Java. Et si on veut une fonction qui modifie ses arguments, eh bien, on est obligé de passer ces arguments par référence en leur donnant un type différent, qui est en général un type enveloppé. L'autre chose dont il faut se souvenir, c'est que n'importe quelle fonction qui va être définie sur un type enregistrement va potentiellement modifier son argument, c'est-à-dire non pas l'enregistrement lui-même ou n'importe quoi, vers quoi l'enregistrement pointe. Voilà, donc ça conclut la partie sur le partage. Et on va voir maintenant ce qui se passe dans d'autres langages de programmation, et en particulier en Camel et en C. Et encore une fois, je vous rappelle ce que je vous ai dit déjà maintenant de nombreuses fois, le but n'est pas que vous connaissiez pas par cœur les constructions de Camel et de C, mais que vous compreniez que il y a, dans ce que je vous ai présenté, des choses qui sont spécifiques à Java et qu'il y a de nombreuses manières de faire différemment. Autant quand je vous ai dit, quand je vous parlais du test, quand je vous parlais de la boucle, même quand je vous parlais de l'appel de fonction, j'étais obligé à chaque fois de vous dire en C, en camel, il se passe en gros la même chose qu'en Java. On était sur des constructions qu'on peut appeler stabilisées, c'est-à-dire après quelques errements qui ont duré pendant des années préhistoriques, dans les années 50 et les années 60, on est arrivé à un moment où tous les langages de programmation sont plus ou moins d'accord sur ce qu'est une affectation, ce qu'est une séquence, ce qu'est une boucle, ce qu'est un test, ce qu'est un passage de, ce qu'est un appel de fonction. Avec les enregistrements, on arrive ici dans une zone qui est beaucoup plus variée et les langages de programmation se distinguent bien davantage que sur les autres constructions. Donc, quelles questions se poser à propos de camel et de C? Et ce sont les questions que je vous ai posées tout à l'heure. À chaque fois qu'on aborde un nouveau langage et qu'on veut comprendre comment les enregistrements marchent dans ce langage, il faut se poser quatre questions. Comment est-ce qu'on définit un type d'enregistrement? Comment est-ce qu'on alloue un enregistrement? Comment est-ce qu'on accède à un champ? Et comment est-ce qu'on modifie un champ? Donc, commençons par nous poser ces questions pour camel. Première question, deuxième question, troisième question, quatrième question. Comment est-ce qu'on définit un type? Eh bien, on a un mot-clé. Alors, en camel, c'est différent de Java. Le mot-clé, c'est pas le mot-clé classe, mais c'est le mot-clé type. Type point. En camel, en général, je sais plus si c'est obligatoire ou si c'est juste une convention, les noms des types commencent par une minuscule. Et on définit un type par ses étiquettes, latitude, longitude, altitude. Pour chaque étiquette, on indique le type de l'étiquette, le type du champ. Et comme toujours en camel, le type il se met après la variable ou l'étiquette est entre les deux, on met deux points. Et comme en Java, on indique si un champ est mutable ou final. Mais vous vous souvenez qu'en camel, on indique quand c'est mutable et non pas quand c'est final. Donc ici, c'est très similaire à Java, la seule différence est de syntaxe. Comment est-ce qu'on alloue une cellule? Eh bien ici, je vous ai mis l'affectation d'une variable avec la valeur d'une cellule allouée. Let x égale ref, bah, ça c'est exactement comme ce qu'on avait fait pour n'importe quelle valeur. Mais ici, on voit que on associe à x le triplet, latitude égale 48,715, longitude égale 2,208, altitude égale 156, et que ce qu'il y a maintenant comme différence, c'est qu'il n'y a pas le mot-clé new. Alors, il n'y a pas le mot-clé new, et en fait, il est là. Le mot-clé new, c'est cette paire d'accolades. À chaque fois que vous mettez une paire d'accolades en camel, c'est le moment où camel va créer une boîte rouge. Donc là encore, une différence de syntaxe, mais au fond, il se passe exactement la même chose. En revanche, vous voyez qu'il y a une chose qui n'apparaît pas ici, c'est la valeur. Vous vous souvenez tout à l'heure, quand on avait une boîte bleue qui était de type point, il y avait deux possibilités. Ou bien elle contenait un pointeur vers une boîte rouge, ou bien elle comptait la valeur nulle. Et en camel, vous n'avez pas de valeur nulle. Il n'y a pas de mot-clé, il n'apparaît pas sur le transparent, c'est bien la preuve qu'il n'y en a pas. Et à chaque fois que vous avez une variable de type point, eh bien, vous êtes obligé de lui associer un triplet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur par défaut d'une variable de type point. Et ça, on va voir la semaine prochaine que ça amène une grande différence entre Java et camel. En particulier qu'il y a des types vides en camel, alors qu'un type n'est jamais vide en Java parce qu'il contient toujours une valeur par défaut qui est la valeur nulle. Alors bien sûr, ici, le type point, il contient pas vraiment, il n'est pas vraiment vide, hein, il contient beaucoup de triplets, mais on n'a pas ce cas particulier. Comment est-ce qu'on accède à un champ? Eh bien, exactement comme en Java. Ici, on a une expression. Alors en Java, c'était x, là c'est point d'exclamation x, mais ça n'a rien à voir avec les enregistrements, c'est juste la différence des variables en camel et en Java. Et puis, donc, quand on a une expression ici, on met un point, on met le nom du champ derrière, l'étiquette, et donc, c'est ça la valeur. Ici, c'est 48,715. Et comment est-ce qu'on affecte un champ? Eh bien, on fait exactement comme en Java, sauf qu'ici, c'est pas le symbole égal, ni même le symbole deux points égal. Le symbole est moins surchargé qu'en Java. On a distingué l'affectation d'un champ de l'affectation d'une variable pour bien indiquer que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Donc voilà, ça c'était le cas de Camel. Avec la différence dont il faut se souvenir, c'est qu'il n'y a pas en Camel de valeur nulle. Et donc un choix qui se pose dans tous les langages de programmation, est-ce qu'il y a une valeur nulle qui est une valeur par défaut dans tous les types enregistrements? Ou est-ce que cette valeur n'existe pas? Et donc vous pouvez classer les langages en ceux qui ont une valeur nulle et ceux qui n'ont pas de valeur nulle. Le 4C maintenant, on se pose les quatre mêmes questions et voici les quatre réponses. Comment est-ce qu'on définit un type? Eh bien, comme en Java, sauf que le mot-clé n'est ni classe, ni type, mais struct, et les enregistrements en C s'appellent des structures. Donc, autre chose dont il faut vous souvenir, si vous lisez un livre sur C et que vous voyez le mot structure, eh bien, c'est la même chose que les enregistrements. Et de manière générale, les mots sont à peu près synonymes. Et simplement, dans certains langages, on dit environnement, dans d'autres, on dit structure. Donc, si vous entendez parler de structure, ça veut juste dire des enregistrements. Comment est-ce qu'on alloue un enregistrement? Eh bien là, ça ressemble beaucoup à Camel, sauf que en C, cette paire d'accolades n'a pas la signification que le mot-clé new a en Java. Donc ici, on est dans une troisième situation. Il n'y a pas d'allocation d'enregistrement en C. Plus exactement, la définition d'un enregistrement est complètement indépendante de savoir si on alloue quelque chose ou pas. Et donc ici, quand on fait ça, en C, on n'a pas une petite boîte bleue qui contient un pointeur vers une grosse boîte rouge. Ça, c'est ce qui se passe en Camel, c'est ce qui se passe en Java, mais ce n'est pas ce qui se passe en C. Et en C, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, que vous verrez une seule fois pendant tout ce cours, c'est une boîte bleue à plusieurs compartiments. Et donc ça n'existe qu'en C. Une boîte bleue à plusieurs compartiments, la voici, elle a un nom, et directement dans l'environnement, X est associé à une référence R, qui est cette boîte bleue à trois compartiments, et on met dans chacun de ces compartiments une valeur. Il n'y a pas une new, il n'y a pas de boîte rouge. En revanche, comme on veut rentrer trois valeurs dans une même boîte bleue, on est bien obligé d'avoir des grosses boîtes bleues. Du coup, la signification de l'expression x.latitude est tout à fait différente. En Java, je commençais par calculer la valeur de x, et la valeur de x, c'était r, qui était associé dans la mémoire, non pardon, c'était r', qui était associé dans la mémoire à un triplet. Ici, la valeur de x, c'est quoi? Ben, c'est pas la boîte bleue. C'est le triplet. Et donc ici, autant en Java, je disais, si jamais la valeur de x est une référence r' associée dans la mémoire à un triplet, alors x.latitude est le champ latitude de ce triplet. Autant ici, la phrase est plus courte. C'est si x est associé dans la mémoire à un triplet. Pardon, si la valeur de x est un triplet, on ne parle pas de la mémoire, alors x.latitude est le champ latitude de ce triplet. De la même manière, quand j'exécute x.latitude égale 23,45, eh bien, je vais changer le champ latitude du triplet associé à x. enfin de celui-là. Donc vous voyez que la situation en C est vraiment très différente. Il y a une indirection de moins que en Java. Il n'y a pas de toujours de pointeur. Alors ça fait que cette fonction en C a une signification tout à fait différente de ce qu'elle a en Java. Si j'ai une fonction qui s'appelle tropique, qui me prend un argument qui est un point, y, et qui fait y.latitude égale 23,45. Ok, au moment où je vais appeler cette fonction, tropique de x, eh bien, la valeur de x, c'est quoi? C'est le triplet, 48,715, 2,208, 156. Et je vais associer ce triplet à y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai une boîte x à trois compartiments, et une boîte y à trois compartiments, et dans chacun de ces trois compartiments, je vais avoir les trois coordonnées. Mais au moment de l'appel de fonction, j'ai recopié entièrement l'enregistrement. J'ai recopié le 48 en un nouveau 48, j'ai recopié le 2,208 en un nouveau 2,208, j'ai recopié le 156 en un nouveau 156. Et donc, ici, j'affecte le champ latitude de y. Quand je quitte la fonction, y disparaît. Et x.latitude vaut toujours 48,715. Exactement comme j'avais essayé, quand j'avais essayé d'écrire une fonction swap sur deux entiers, eh bien, ça n'a pas modifié la valeur de l'argument. Alors que si j'avais fait ça en Java, pourquoi est-ce que ça aurait modifié la valeur de l'argument? Eh bien, parce que ce que je vous avais montré sur un type enveloppé marche pour n'importe quel enregistrement. Quand je suis ici avec une variable x qui pointe vers ce triplet, au moment où j'appelle la fonction, je crée une variable y qui pointe sur le même triplet et je n'ai en aucun cas recopié les trois entiers qui se trouvaient là. Tout ce que j'ai recopié, c'est la référence c'est cette référence-là qui était la valeur qui était ici, et j'ai recopié cette valeur là-dedans, ce qui crée une situation de partage. Quand je modifie x, quand je modifie y, x est modifié ipso facto. C'est pas le cas en C, où j'ai recopié entièrement l'enregistrement, j'ai modifié l'enregistrement recopié, je l'ai détruit en quittant la fonction, et donc je n'ai pas la possibilité de modifier x. Donc qu'est-ce que je dois faire pour faire une fonction qui modifie la valeur d'un enregistrement? Eh bien, je dois faire exactement la même chose que ce que je fais quand je veux une fonction qui modifie la valeur d'une variable. Ici, il n'y a pas de différence entre un enregistrement et une variable quelconque. Je suis dans cette situation. C'est ça ma boîte X. Au moment où j'appelle la fonction, je ne vais pas appeler la fonction sur x, mais je vais appeler la fonction sur la référence associée dans l'environnement à x. C'est quoi la référence associée dans l'environnement à x? C'est la boîte bleue triple, et je vais mettre cette valeur dans y. C'est-à-dire, je me trouve dans cette situation, et là encore, n'importe qui entrerait par cette porte pourrait voir que je suis en train de vous parler de C et non de Java, puisque j'ai une boîte bleue qui contient un pointeur vers une autre boîte bleue. une boîte bleue qui contient un pointeur vers une autre boîte bleue, ça n'existe qu'en C, et ça n'existe que grâce à cette construction, l'esperluette, qui permet de passer une référence à une fonction. Bien sûr, ça existe aussi en CAMEL. Ce que je veux dire, c'est que ça n'existe pas en Java. En Java, les pointeurs vont toujours vers des boîtes rouges. On ne peut créer un pointeur que en faisant un new, alors qu'en C, on peut le créer en utilisant ici l'esperluette appliquée à une variable. Donc attention, Java et C se ressemblent, mais si vous faites un traducteur automatique d'un langage vers un autre, de C vers Java ou de Java vers C, eh bien vous êtes obligé de traduire une variable de type point en Java par une variable de type point étoile en C, c'est-à-dire faire une référence vers un objet de type point. En Java, c'est la grande avancée de Java dans l'histoire des langages de programmation, on a considéré qu'on ne parlait jamais des triplets, qu'on parlait toujours des références vers les triplets, et ça, on a fait ça parce qu'après avoir fait 20 ans de C, on s'est aperçu qu'on n'utilisait jamais de variables de type point, on n'utilisait que des variables de type point étoile, c'est-à-dire des références vers les points. Bien, donc vous voyez que là, on arrive à des points relativement subtils, dans lesquels les langages de programmation se distinguent les uns des autres. Et donc, il est important, quand vous apprenez un nouveau langage de programmation, de vous poser la question du nombre d'indirections qui relie une variable à la valeur. Et ça, c'est une question qu'il faut vous poser de manière plus générale. Dans n'importe quel système informatique, eh bien, vous avez extrêmement rarement un lien entre un nom et un objet. Vous avez toujours des références intermédiaires. Pensez par exemple à une URL. Vous voulez l'URL de Google, vous tapez www.google.fr. Vous croyez que c'est le nom de la machine de Google, mais pas du tout. Vous commencez par demander à un serveur de nom. Ce nom correspond à quoi? Et on vous répond une adresse IP qui est 4 nombres compris entre 0 et 255. Et ensuite seulement, vous pouvez accéder à la machine dont cette adresse IP est le numéro. Donc vous voyez qu'entre l'URL, le nom que vous tapez, et la machine physique, eh bien, il y a une indirection qui est l'adresse IP. Et bien entendu, il y a des adresses IP virtuelles. Vous n'êtes pas absolument sûr que l'adresse que vous a donnée le serveur de nom soit vraiment l'adresse d'une machine. Il se peut qu'au moment où vous demandiez à accéder à cette machine, il y a quelqu'un qui dise, ah ben non, finalement, cette machine, c'est aussi celle-là, donc on va modifier l'adresse IP. Donc, pensez à ça, et la compréhension d'un système informatique, c'est souvent de comprendre le nombre d'indirections qu'il y a. Quand vous tapez ce téléphone, je ne sais pas mon téléphone, mais mon téléphone n'a pas comme numéro 0674, etc. Ce n'est qu'un nom conventionnel qui permettra un jour de tomber sur le numéro de la carte SIM de mon téléphone. Bien, pour terminer, on va un tout petit peu parler des enregistrements à champ numéroté, non pas à champ nommé, mais à champ numéroté, et ça s'appelle les tableaux. Comprendre les tableaux, c'est exactement se poser les mêmes questions que comprendre les enregistrements. Finalement, que les champs soient numérotés ou nommés ne change pas les questions qu'on se pose. Les questions qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on définit un type tableau, comment est-ce qu'on alloue un tableau, comment est-ce qu'on accède à un élément d'un tableau, et comment est-ce qu'on affecte un de ces champs. Alors, première question, en Java, comment est-ce qu'on crée un type tableau? Eh bien, la réponse, c'est on ne le crée pas. Donc, autant on doit déclarer le type des points, en particulier en indiquant les noms et les types de chacun des champs. Et si on n'indique pas que le premier champ s'appelle latitude, on voit mal par quel miracle Java pourrait le deviner. Autant, dans un tableau, on a besoin de définir que deux choses. D'une part, le nombre de cases du tableau. Et une fois qu'on sait que le tableau a 10 cases, on connaît leur nom. C'est quoi leur nom? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, donc attention, lundi, c'est le 0e jour de la semaine. Mardi, c'est le premier jour de la semaine. Et le type des cases, on doit juste indiquer un seul type, parce que dans un tableau, toutes les cases ont le même type. Donc, différence entre les tableaux et les enregistrements. Dans un enregistrement, chaque case a un nom, mais chaque case a un type. Ici, dans le type point, les trois cases avaient le même type. Mais bon, j'aurais pu décider, par exemple, que j'ai besoin d'une précision plus grande sur l'altitude ou plus grande sur la longitude, j'en sais rien, et prendre des types différents. Et on verra des exemples lundi de type enregistrement avec des types très différents pour chacun des champs. Dans un tableau, tous les champs ont le même type. Et donc, le type des tableaux d'entier s'écrit comme ça, int, crochet, crochet. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai indiqué le type des champs. Est-ce que j'ai indiqué le nombre de champs? Non. Le nombre de champs ne fait pas partie du type. En Java. En Pascal, par exemple, il y a un type des tableaux de 10 éléments. En Java, il y a un type des tableaux. Donc tous les tableaux, quel que soit leur nombre d'éléments, ont le même type. Comment allouer un tableau? Ben, il y a un moment où il faut définir le nombre de cases du tableau, et c'est au moment où on alloue le tableau. Donc deux variables peuvent avoir le même type, mais des tailles différentes. Et donc, une fois de plus, c'est le mot-clé new qu'on utilise ici, on donne le type new int de 100, le 100 est mis entre crochets, ça indique que c'est un tableau. Donc ça va définir une boîte rouge qui contient 100 cases. Et malheureusement, j'en ai pas apporté. Les cases sont numérotées de 0 à 99. La taille est déterminée au moment d'allocation, et ensuite, le tableau ne va plus jamais changer de taille. Si vous avez alloué un tableau trop petit, et que vous voulez un tableau à 101 cases, eh bien, vous êtes obligé d'allouer un autre tableau, et puis de recopier le premier tableau dans le deuxième. Comment est-ce qu'on accède au 51e élément du tableau, à l'élément numéro 50, eh bien, on écrit l'expression T de 50, exactement comme ça. Ici, autre différence avec les enregistrements, qui fait tout l'intérêt des tableaux, c'est que je peux mettre une variable ici et parler du n-ième élément du tableau. En Java, je n'ai pas la possibilité de fabriquer une chaîne de caractères en concaténant le mot lati et le mot tude, ce qui va me donner le mot latitude, et ensuite de demander le champ latitude d'un enregistrement. L'étiquette est une constante qui doit être mise explicitement dans le programme. Au moment où j'écris le programme, je dois savoir si je veux la latitude ou la longitude. Je ne peux pas calculer quelque chose qui me dit si je veux la latitude ou la longitude. Quelle est la conséquence de ça? C'est que quand je regarde mon programme et que je vois que j'accède au champ latitude d'une variable de type point, il me suffit de regarder la définition du type point, de vérifier qu'il y a un champ latitude, et je saurai que ce champ existe. En revanche, si ici j'ai une fonction compliquée qui me calcule ce n, et que ensuite j'accède au n-ième élément du tableau, sachant que j'ai déclaré un tableau qui a 100 cases, j'ai aucun moyen de savoir si n est ou n'est pas inférieur strictement à 100, c'est-à-dire si je vais pouvoir accéder à un élément du tableau. Donc c'est une erreur au moment de l'écriture du programme, qui se détecte sur le programme qu'on est en train de l'écrire, le fait d'utiliser un champ d'un enregistrement qui n'existe pas. C'est une erreur qui se détecte une fois que le programme est vendu au client et que le client l'utilise, qu'on accède à une case d'un tableau qui n'existe pas. Et donc ça explique qu'il y ait énormément de recherches qui soient faites sur le fait d'anticiper, avant de vendre le programme, avant de l'utiliser, avant de le mettre dans un avion qui va décoller, les erreurs de sortie des tableaux, alors que ce problème ne se pose absolument pas pour les enregistrements, qui sont une structure beaucoup plus rigide, on ne peut pas calculer le nom d'un champ. Enfin, dernière opération, l'affectation d'un champ. Alors maintenant que vous avez des enregistrements et des tableaux, donc je ne vous décris pas les tableaux en camel et en C, c'est dans le poly, je vous laisse regarder ça, ça ferait beaucoup de décrire les enregistrements en Java, en camel, en C, puis les tableaux en Java, en camel, en C, donc je me limite à Java pour les tableaux. Bon, il n'y a pas de grande surprise sur les tableaux en camel et en C. Eh bien, vous pouvez commencer à écrire des programmes rigolos. C'est un problème qu'on se pose toujours, comment vous faire des TP quand vous n'avez pas encore les enregistrements et quand vous n'avez pas encore les tableaux. Mais dès que vous avez les tableaux, vous pouvez faire des programmes rigolos. Qu'est-ce que fait ce programme ? Donc j'ai deux tableaux X et Y, et je fais varier I de 0 à 109, à chaque fois en ajoutant 1 à I, donc I va successivement prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois, je vais ajouter XI et YI. Le résultat va s'appeler S, et je vais mettre le résultat dans la case I du tableau Z. Sauf que, si jamais en ayant ajouté XI et YI, j'obtiens un nombre plus grand que 10, je vais mettre dans Z uniquement le reste de la division par 10. Quant au quotient par 10, eh bien, je vais le rajouter à XI plus 1 et YI plus 1 au tour suivant. Donc ceux qui sont allés au cours élémentaire première année reconnaissent l'algorithme de l'addition en décimale, base 10. Ok ? C'est pour ça que je divise par 10. Bien, donc une fois que vous avez l'addition, quelle est la taille de mes nombres ? C'est des nombres entiers qui font 110 chiffres. Ok ? Et ils sont compris entre 0 et 9. Donc ils sont compris entre 0 et 9, il y a le chiffre des unités et 109 chiffres après la virgule. Bien, vous pouvez faire la multiplication, vous pouvez faire la division, vous pouvez faire toutes les opérations que vous avez apprises à l'école primaire sur cette structure qu'on appelle les structures de grands entiers. Et ensuite, eh bien, vous pouvez utiliser ces opérations, par exemple, pour obtenir ce nombre. Et là, les plus savants d'entre vous reconnaissent les décimales de pi. Et alors, ces décimales de pi ont été, c'est les 100 premières décimales de pi, et elles ont été calculées par machine. Mais elles n'ont pas été calculées par une machine. Elles ont été calculées par quelqu'un, et l'histoire a bien fait les choses, qui s'appelait John Machine. Donc la première personne qui a calculé 100 décimales de pi, ben, c'est John Machine, et il l'a fait en utilisant une formule que vous connaissez, c'est que pi sur 4, c'est arc tangente de 1 cinquième moins arc tangente de 1 sur 239, et il manque un divisé par 4 quelque part. Donc je vous ai proposé dans le poly un exercice qui est de redémontrer cette formule, elle tombe pas du ciel, elle est facile à redémontrer. Et ensuite, John Machine a utilisé ses algorithmes pour calculer les 100 premières décimales de pi, mais comme bien sûr, il faisait ça à une époque où il n'y avait pas de machine, bon, il a tout fait à la main, ça lui a pris 20 ans ou 10 ans, je sais plus, à refaire toutes les opérations. Il les a fait juste. C'est un truc incroyable, c'est que apparemment, il n'a pas fait d'erreur. Et en 20 ans, il a eu le temps de refaire les calculs. Hein, mais et donc, il est arrivé à ce résultat. Et donc là, vous pouvez arriver au même résultat en quelques fractions de seconde. Bien sûr, 100 décimales, c'est rien. Vous pouvez calculer des milliers de décimales exactement de la même manière. Voilà, pour lundi, je vous propose de regarder l'exercice 4.2 et 4.3. Et la prochaine fois, on parlera de type de données dynamiques.